Alors, pendant qu'on ouvre mon PowerPoint, je voulais commencer par remercier les organisateurs pour nous avoir invités et pour l'organisation de ce très beau séminaire, on m'a dit en haut. Oui. D'accord. Et pour passer de l'un à l'autre. Tu veux que je me mette là ? Je voulais m'excuser aussi. Parce que je ne vais pas pouvoir rester cet après-midi. Je dois m'échapper vers 12h30. Mais je serais ravie de vous retrouver en fin de journée pour pouvoir poursuivre la discussion. Alors, je vais vous parler de bouffons rituels au Mali. Alors, ça va peut-être paraître un petit peu exotique parce qu'on va... Attendez, je vais... Hop. Alors oui, je vais parler en français. Mon PowerPoint sera en anglais. I'm sorry that there might be some mistakes, but voilà, c'est pour que ce soit un peu plus compréhensible. Donc je disais, je vais parler du Mali. Donc ça peut sembler à première vue un peu exotique, mais Benjamin, en organisant la table ronde, m'avait fait remarquer que le phénomène dont je parlais, c'est un phénomène qui finalement moi, j'ai des traces depuis le tout début du XXe siècle au Mali, donc c'est quelque chose qui est dans la longue durée, qui se transforme évidemment, mais qui est dans la longue durée. Par ailleurs, je parle de bouffonnerie rituelle, donc là qui est spécifique au Mali, mais j'ai pas encore commencé une comparaison précise, mais c'est un phénomène que l'on trouve sur tous les continents. Quel que soit le nom qu'on lui donne, ce sont des figures qui sont à la fois subversives et moralisantes, religieuses et prosaïques, joyeuses et effrayantes, et donc qui interviennent dans des cérémonies rituelles, mais aussi dans la vie quotidienne, et qu'on retrouve sous différentes formes, sous différents noms, au travers des carnavals, les charivaris, il y a des pièces de théâtre avec la figure du bouffon rituel, il y a des rituels où cette figure est aussi très prégnante. Donc là, je vais vous parler d'un cas très précis, mais avec l'idée qu'il y a une perspective comparative qui est aussi qui s'inscrit derrière et qui m'intéresse. Alors, avant de vous présenter ces figures, comme je vais principalement parler de leurs vêtements et de leur parure, parce que ce sera pas juste des vêtements, ce sera les objets qu'ils mettent sur ces vêtements, je vais commencer par vous présenter la manière dont on s'habille. Donc au Mali, moi j'ai travaillé dans la ville de Ségou, voilà, qui est au nord-est Bamako, le long du fleuve Niger. Donc je vais vous parler, parce qu'en fait au Mali, chaque région a ses spécificités, notamment culturelles. Donc là, mes propos s'adressent principalement sur cette région. Alors au Mali, les bijoux les plus courants sont les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets dorés. Il y a pas mal d'or, alors que ce soit de l'or vrai ou non, je crois pas qu'il y ait de garantie nécessairement au Mali. Donc on voit un peu sur la personne de gauche, c'est un peu foncé. Je sais pas si on peut éteindre les lumières juste devant peut-être pour qu'on voit mieux les images. Donc on voit un peu sur la personne qui se trouve à gauche, donc des bijoux assez fins, sachant que on peut j'ai plus voir. C'est mieux comme ça, mais sinon je trouve une petite lumière. Je sais pas si vous avez un. Ok. Sachant que certains habits et certains bijoux sont associés à des groupes ethniques particuliers, tant par leur matière que par leur manière des porter. Mais là, le plus commun donc dans la région, c'est les bijoux en or. Alors à Ségou, les hommes et les femmes s'habillent principalement avec ce qu'on appelle des pagnes. C'est un morceau de tissu qui est vendu dans les boutiques et dans les marchés, qu'ils font coudre sur mesure chez un couturier. Alors, les modèles féminins sont composés de 3 pièces, mais ce n'est pas un costume. Donc il y a un pagne qui est noué à la taille, donc, ou bien cousu en forme de jupe. Il y a une tunique et un foulard qui sont généralement du même tissu. Après, ça dépend des occasions, les occasions où les personnes s'exposent publiquement. Alors, on trouve évidemment différents tissus, plus ou moins riches. Et on trouve également un marché important de vêtements occidentaux, neufs, et beaucoup de vêtements de seconde main que portent notamment les jeunes hommes. Là. Donc, on voit un jeune homme danser avec ses vêtements. Mais à ses goûts, le pagne reste prédominant parce que c'est l'un des principaux dons qui est fait à diverses occasions, les mariages, les baptêmes notamment. Une autre raison qu'on voit ici, c'est que lorsqu'il y a un mariage, par exemple, les proches des mariés vont acheter tous le même tissu qu'ils feront coudre ensuite. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, ouais, qu'ils feront coudre ensuite chacun à leur façon. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent un uniforme, en bambara français, uniformi. Et donc, en fait, c'est ce qu'on voit là. Donc, ça peut être pour un mariage. Là, ça peut être. Là, c'est un événement à l'échelle de la localité. Donc, c'est une fête pour célébrer le nouveau maire d'une commune voisine, mais qui vient de ce village-là. Donc, il y a une fête organisée à l'échelle du village. Et pour cette fête, il y a un tissu qui a été choisi, et donc les femmes et les hommes, s'ils le veulent, achètent ce tissu et vont tous le porter le jour de la cérémonie. Donc le jour, donc c'est pour donc les mariages, les fêtes locales, n'importe quel événement où on veut faire groupe en fait. Et donc le jour où le jour de la cérémonie, donc on voit il y a un effet de similarité qui est très fort et qu'on retrouve chez beaucoup de groupes, parce que le Mali est un pays aussi où les groupes sociaux sont très très identifiés, avec chacun justement des musiques, des chants et des danses spécifiques, mais aussi des parures spécifiques. Donc en fonction des parures, on identifie bien les différents groupes. Et là, donc il y a une autre forme de manière de se regrouper. C'est voilà, tout le village et ceux qui veulent se joindre à l'événement veulent célébrer là en l'occurrence l'élection d'un maire. Et bah, de même, s'il y a un événement plus spécifique, la fête du travail, la journée des femmes, etc., pour chaque événement national, un tissu spécifique est créé à cette occasion, et donc on peut le porter, alors évidemment, le jour même. Et les autres jours, ça fera un peu office de rappel, et puis on verra si deux personnes portent le même vêtement, on saura qu'elles étaient au même événement. Alors ensuite, les écarts à la bienséance du point de vue des parures est assez minimal, c'est-à-dire que dès qu'un habit est jugé sale, alors la saleté est vraiment trop sale ou trop usée ou pas appropriée, l'entourage aura vite fait de faire des remarques assez acerbes. Ça m'est arrivé pour des vêtements trop usés. Sauf évidemment pour les habits de travail, les habits salissants, les habits d'agriculteur, les réparateurs de moto, évidemment, ils sont salissants. Et les femmes, il y a une, enfin, les personnes qui restent à la maison, travaillent à la maison, les femmes notamment, changent de tenue quand elles sortent pour aller au marché, pour aller saluer, etc. Donc, alors dans ce paysage, voilà, de similarité, certains personnages détonnent. Ce sont les bouffons rituels qu'on appelle en Bambara, enfin, les Korodouga que j'ai suivis donc dans la région de Ségou. Donc eux, chacun confectionne sa parure comme il l'attend, comme il l'entend. Et beaucoup portent des éléments, des vieux habits usés et des éléments qu'ils ont ramassés dans leur environnement et qu'ils ajoutent sur leur parure comme dépendants. Sur la tête, hommes et femmes portent de vieilles perruques usées, des chapeaux, des seaux cassés, des oreilles d'âne. Sur le visage, les bouffons ajoutent de larges lunettes en calebasse ou de vieilles lunettes cassées ou des lunettes d'enfant. À la taille, ils portent des bouteilles en plastique, des ceintures faites avec des capsules qu'ils feront rebondir à chaque pas de danse, parce qu'une de leurs pratiques principales, justement, c'est de danser, en tout cas certains. Donc plus les plus jeunes multiplieront les pendants, les capsules, etc. Et donc pendant leur danse, toutes ces parures sont mises en mouvement. Et sur le torse retombent des morceaux de filet de pêche ou tout autre objet du quotidien, comme une embrasse de rideau, par exemple. Alors, chaque personne, ce qui est intéressant, c'est que chaque personne prend ce qu'il trouve dans son environnement proche aussi. Donc, celui qui sera au bord du fleuve va récupérer des vieux filets de pêche. Celui qui bosse dans des bureaux va récupérer des embrasses de rideau, par exemple. Alors, le port de ces perruques implique une parure et une conduite spécifiques. Alors, je précise que, donc là, à l'image, ce sont deux femmes Korodouga, donc exactement à la même cérémonie. Donc, il y en a une, on voit là, à droite un collier fait avec des bouchons, des morceaux de bouchons, un patchwork de tissu avec des filaments qu'on retrouve assez souvent. Leur seule caractéristique, leur seul élément de parure qui leur est caractéristique et qui permet de les reconnaître, c'est le collier de fèves rouges qu'on voit sur la gauche. Alors, je précise que tous ces hommes et ces femmes, il y a des hommes et des femmes, des enfants, ont tous par ailleurs une identité sociale ordinaire, un métier, et donc ils s'habillent ainsi à certaines occasions. Ils se réunissent en général à l'occasion de cérémonies, telles qu'elles soient, rituelles, festives. Donc quand ils se réunissent, ils dansent systématiquement, ils ont des danses très enlevées, qui se poursuivent bien souvent par des jeux, des roulades à terre. En fait, ce sont des personnages qui sont dits sans honte, sans honte, shameless, oui. Parce que... ils jouent dans les domaines sensibles de la pudeur. Ils parlent beaucoup de sexualité, de scatologie. Ils sont très réputés pour leur gloutonnerie, qui, en fait, ils mettent l'accent sur leur propre désir et ils mettent aussi l'accent sur les règles de la collectivité. Donc, ils ont aussi, dans le même temps, un côté moralisateur. Et ils ont en fait, donc ils sont considérés comme l'absence de honte. Au Mali, la honte, c'est pas seulement un sentiment, c'est aussi la bienséance, c'est la déférence. Donc c'est du point de vue social, c'est le respect en fait. Donc l'absence de honte, c'est une manière de s'éloigner des règles de bienséance. Mais en même temps, ils ont des rôles, on leur confie des rôles sociaux très importants. Donc ils sont invités pour animer les festivités par leur danse, par leur joie, ce qui est important. Et il y a d'autres aussi aux intervenants qui font ça. Ils sont aussi appelés pour protéger les participants des personnes mal intentionnées qui risqueraient de soit faire du mal directement à une personne ou mettre à mal la fête ou l'événement. Ils sont assez appelés parce que leur présence assure la prospérité des individus et des localités. Et puis, ils exaucent les vœux, ils évitent les conflits et aussi ils dénoncent les injustices. En fait, ils ont la capacité de s'opposer à toute personne qu'ils jugent injuste ou immorale. Alors, arrêter le regard, j'ai beaucoup aimé cette expression qui correspond tout à fait à la situation créée par les bouffons rituels, dans le sens où ils captent l'attention en mobilisant tous les sens. Alors, ils captent l'attention par la sonorité de leur performance, celle de leur rythme musical, celle du hochet aussi, ils ont un hochet qui accompagne chacun de leurs pas, la sonorité de leur chant, des chants qui s'ajustent en fait aux situations et aux personnes qu'ils croisent et qui peuvent prendre c'est des tout petits chants, enfin c'est des chants de très courts qui sont répétés, qui prennent la forme de proverbes, et des chants qui sont soit drôles, soit moralisateurs, et aussi des cris, certains lancent des cris imitant le cri d'animaux ou de bébés, qui fendent soudainement le silence, et puis leur rire aussi, le rire, le leur, et puis ceux des spectateurs. Donc ils arrêtent le regard par la sonorité de leur performance, et aussi ils captivent l'attention par leur mouvement et par l'espace-temps qu'ils créent. En fait, ils participent à des cérémonies, mais aussi ils déambulent dans les rues, donc ils s'imposent aux habitants, ils rentrent dans les cours des maisons. Ensuite, donc ils s'imposent dans l'espace public. Ensuite, avec leur danse et leur interaction qui sont très enjouées, ça attise la curiosité. Donc les personnes alentour s'approchent pour les regarder en maintenant plus ou moins de distance. Et même lorsqu'ils sont attendus et annoncés, ils arrivent toujours à surprendre, qu'elles cassent systématiquement la routine de la vie quotidienne et leur propre routine aussi. Ils restent toujours imprévisibles. Donc c'est toujours avec intérêt et méfiance à la fois qu'on les attend, parce que montrer trop d'adhésion engage le spectateur dans cette exubérance qu'il n'est pas toujours prêt à assumer, parce que ça l'éloigne de certaines convenances de rester plus calme. Et aussi, s'approcher trop d'eux, c'est risquer d'interagir avec eux, donc ne seulement être pris dans des plaisanteries scabreuses, et aussi c'est des personnes qui suscitent des dons régulièrement. Donc les bouffons, s'ils nous intéressent aussi, mais ça fait partie d'un tout. Ils arrêtent le regard également en imposant leur parure composite dans cet espace où, comme on a vu, l'habillement est assez contrôlé. Ah, ouf. Ah, je vais accélérer un petit peu. Alors, je me suis posé une question suite à un colloque qui a été organisé cette année à Bordeaux, en fait, qui parlait de l'excentricité. Et je me suis demandé si les bouffons rituels étaient excentriques ou pas. Alors, le thème d'excentricité au sens de quelque chose qui s'éloigne des manières usuelles, mais aussi quelque chose dont la singularité attire l'attention, cette définition colle assez aux pratiques des bouffons rituels, à mon sens. Alors, parfois, dans ces pratiques un peu subversives, il y a eu des théories qui parlaient de catharsis, de sorte de relâchement. Mais en fait, c'est beaucoup d'efforts qui est fait pour aller au-delà des normes, aller au-delà du quotidien. Et donc, il y a un réel effort dans les conduites, comme dans les propos, pour se départir de ce qui est attendu. C'est pas un relâchement, c'est un surplus d'énergie. Aussi, pour être considéré comme excentrique, il n'est pas suffisant de faire des choses différemment, car cet écart pourrait être considéré comme une erreur ou un manque de connaissances, comme les enfants, ou une incapacité à suivre les règles. Non, l'excentricité implique également d'assumer cette différence, de mettre en avant cette singularité. Et c'est là une caractéristique des bouffons rituels, qui sont appelés justement sans honte, parce qu'ils s'éloignent de la conformité sans ressentir la honte que cet écart peut créer. C'est un éloignement volontaire et assumé. Alors, excentrique, pourtant, ce n'est pas un terme que je retrouve dans la littérature pour les qualifier, pour qualifier les pratiques bouffonnes en général. En revanche, c'est un terme qui est beaucoup utilisé pour qualifier les parures excentriques. On parle très souvent de parures excentriques, des vêtements d'allure extérieure. Alors, il y a des raisons pour lesquelles on ne peut pas les qualifier vraiment d'excentriques, notamment en sciences sociales, on s'intéresse plus à ce qui aux régularités qu'aux singularités, mais aussi parce que Margaret Mead, en 1937, remarquait que les excentriques sont souvent institutionnalisés, ils sont normalisés. Et dans le cas qui nous intéresse, les Korodega, il s'agit d'un groupement social, c'est une identité sociale héréditaire qui s'acquiert aussi par adoption. Et c'est un groupe social qui est reconnu avec un chef dans le village, qui est reconnu à l'échelle de la localité. Donc c'est une excentricité, mais qui est normalisée. C'est pour ça que le terme d'excentrique convient à leur pratique, mais pas tout à fait à cette position. Alors, je vais vous présenter quelques particularités. La première particularité la plus importante, c'est la nature composite de leurs matériaux. C'est sur quoi ils insistent. Donc, cette composition s'appuie néanmoins sur un certain nombre d'éléments reconnaissables. Donc, je parlais de l'uniforme tout à l'heure. Alors, eux, ils utilisent les uniformes pas pour se dire Korodouga, bouffon rituel, mais pour marquer une même localité. Donc, c'est ce qu'on voit à gauche. Et ensuite, ils ajoutent plein de pendants spécifiques. Certains portent des tenues de chasseurs. Donc, les chasseurs sont une confrérie puissante au Mali, dont la matérialité est un vecteur de puissance, parce que ça induit un contact et une transformation de la faune et la flore. On retrouve également des référents à leur propre identité et activité, comme ils portent souvent des cuillères qui montrent un peu, qui fait référence à leur gloutonnerie. On trouve des référents à des époques passées, etc. Cette nature très composite vient également des manières d'acquérir ces ornements. Alors, les tissus qu'ils utilisent sont bien souvent des dons qu'ils ont reçus, et nombre de vêtements sont également empruntés à des personnes alentour, à une épouse, un époux, à un voisin, un enfant. Si l'élément est toujours utilisé, ils l'empruntent et le rendent après la cérémonie, mais ils prennent également des pièces qui sont sur le point d'être usées. Donc là, on n'en voit pas trop ici, forcément. Si on en verra là, par exemple, la personne du milieu a récupéré une vieille robe d'une femme, donc c'est un homme qui a voilà, deux tuniques l'une sur l'autre usées, dont une robe qu'il a empruntée à une femme. Et donc, ils empruntent, ces éléments sont sujets de dons. Et même une fois qu'ils sont acquis, ces éléments de parure continuent de circuler parce que les bouffons rituels aiment pratiquer le vol, l'emprunt par le jeu. Et donc ils s'empruntent, se volent des ornements également entre eux. Donc ces éléments circulent constamment, d'autant qu'une autre manière d'acquérir et de faire circuler ces éléments, c'est que beaucoup de ces ornements sont des choses qu'ils ont ramassées, comme je disais, ramassés parce que ce sont des choses qui ont été délaissées par leurs propriétaires ou mises de côté, comme donc ces vieilles perruques ou les cylindres qu'utilisent les couturiers ou qui entourent le fil, voilà, qui sont délaissés. Eux, ils en font des longs filaments ou des ceintures sur leur parure. Donc les bouffons rituels se singularisent finalement en portant un peu de chacun, un peu de tous. Il y a un peu d'éléments de tous là-dedans. Et cette nature composite et l'usure qu'ils mettent en avant fait qu'ils représentent moins une époque ou une activité qu'ils partagent certaines caractéristiques. Par exemple, quand on voyait avec un bouffon rituel avec une tenue de chasseur, la deuxième image, il ne représente pas un chasseur, ou s'il y en a un autre qui a des oreilles d'âne, il ne représente pas l'âne, parce qu'il y a plein d'autres éléments qui sont là. Juste, il montre qu'il partage un certain nombre d'éléments d'éléments de référent par ce qu'il porte. Je vais conclure d'une minute à l'autre. Je vais conclure sur ça, du coup. J'ai parlé pour décrire leur parure d'une esthétique de l'inutile. Alors, les bouffons rituels font de vieux habits des parures de cérémonie, là où les participants achètent au contraire des parures neuves pour l'occasion. Des parures neuves, ce sont des vêtements non déformés par les mouvements propres à celui qui porte, selon Zimmel, qui a fait une étude sur la parure. Donc, leur présence, et donc là, on voit à gauche une femme richement vêtue avec de très beaux bijoux, donc on voit un peu son statut social, et à droite, une bouffonne rituelle, donc la photo est un peu floue, mais avec des vieux habits, on ne voit pas trop, mais c'est des trucs en plastique autour du cou. Ça pourrait paraître, ces vêtements usés, comme une critique d'un excès de consommation ou d'ostentation. Mais ce n'est pas le cas. Les bouffons rituels ne s'affichent pas comme des représentants des pauvres ou des critiques des riches. Au contraire, ils doivent montrer qu'ils ont un métier par ailleurs, qu'ils ne suscitent pas des dons pour vivre. Ils doivent montrer qu'ils sont totalement indépendants, qu'ils sont là pour autre chose. Par contre, ce qu'ils font en portant ces vieilles parures usées, c'est se détacher totalement d'une idée de représentation de statut. C'est-à-dire qu'ils s'habillent avec la même parure, qu'ils aillent voir des personnes très riches ou des personnes très pauvres, des jeunes ou des vieux, des personnes connues ou non, quelle que soit la cérémonie. Alors en général, comme on a vu dans les cérémonies de mariage notamment, tout le monde se met sur 131, et eux, quel que soit l'événement, ils sont habillés toujours de la même manière. Donc c'est une manière de contredire un peu le système hiérarchique et de venir avec un peu de tous dans ces événements. Par ailleurs, lorsqu'ils utilisent des objets usés, il n'essaie pas de les transformer en quelque chose d'autre. Il y a, ce qui est important, c'est de garder, donc là, j'ai pas d'autres exemples, mais ils prennent des sacs, par exemple, des sacs de céréales, et ils en font des tuniques. Et ce qui est important, c'est de, qu'on reconnaisse l'objet, l'objet sac. C'est pas d'utiliser le matériau, c'est vraiment qu'on reconnaisse les objets. Et c'est une manière de donner une nouvelle visibilité à ce qui peut paraître hors fonction, sans pour autant attribuer à ces matériaux une nouvelle finalité autre que celle exposée. Alors je vais arriver directement sur ma conclusion. Je vais sauter une slide. Juste pour quelques citations. Bakhtin disait que le clown n'est ni excentrique ni balourd, ni acteur comique. Il est l'art, il est entre l'art et la vie. Andelman, un ethnologue qui a étudié les clowns rituels en Amérique notamment, dit qu'ils ne sont pas à la frontière entre, par exemple, un rituel et entre le religieux et le séculier. Il dit que le clown rituel est la frontière. Et en fait, il se place, pour moi, il se place dans cet interstice qui est écrit par Gouillet, entre l'être et l'on-être, où existe le peut-être. Et l'ornement participe de ce processus en recomposant en fait l'individu, en recomposant l'individu dans cet espace un peu interstitiel qui permet, selon leur rôle, qui permet le changement. Je vous remercie de votre attention. Désolée d'avoir.